Radio Campus 88.3. Méfiez-vous, ils sont là.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Au milieu du XVIIIe siècle, la cour vient chaque année à Fontainebleau où des ouvrages des grandes stars lyriques de l'opéra de l'époque sont créés. Mais il en est un qui fait exception parce qu'il est chanté en Languedoc. C'est en 1754 que le compositeur Mondonville écrit et compose Daphnis et Alcimadur, les aventures de deux personnages connus des lecteurs de Jean de La Fontaine qui vont permettre une pastorale où les bergers se voient réserver le droit d'exprimer le sentiment de l'amour. Quelques décennies avant le romantisme, il était encore possible de conjuguer sentimentalité et légèreté, pour ne pas dire badinage, dans une musique qui sent bon la campagne, mais qui a quelques bonnes raisons de prendre des manières musicales au goût italien, à l'heure où la querelle des bouffons est sur le point de se terminer. C'est bien pour décliner le verbe badiner que ce métaclassique vous propose d'écouter de nombreux extraits de ce qui est peut-être moins un opéra qu'une pastorale languedocienne, et nous la faire raconter par le directeur musical de l'Orchestre Les Passions, Jean-Marc Andrieux, et la musicologue Bernadette Lespinard. Hélas pour être que Farejou, c'était un air qui inaugure le premier acte de Daphnis et Alcimadur de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville. Bonjour Jean-Marc Andrieux.
Bonjour.
Ça fait longtemps que vous connaissez ce monsieur Mondonville?
Oui, quelques temps.
C'est-à-dire
oui, je ne l'ai pas connu personnellement.
Non.
Mais sinon, je le connais depuis, on va dire, au moins 40 ans, oui.
C'est-à-dire que vous avez fondé l'ensemble Les Passions que l'on vient d'entendre en 1986.
Oui, exactement. Il s'est passé deux choses en 1986, la naissance de l'orchestre et Tchernobyl. Oui. On retiendra l'orchestre.
Et ouais. Il se trouve qu'à ce moment-là, vous discutez avec Jean-Christophe Maillard.
Exactement, oui, oui, et grand musicologue.
Et qui vous fait faire la connaissance de ce compositeur.
Et qui me dit, tu te rends compte qu'il y a, à l'époque baroque, il y a un compositeur, mon ami, qui a écrit cet opéra en occitan. C'est vraiment pour toi, tu dois absolument arriver à monter cet ouvrage.
C'est-à-dire que c'est plus ou moins le seul ouvrage lyrique de l'époque à être écrit dans cette langue d'oc.
Alors, Mouret l'avait précédé, voilà, je cherchais le mot, je crois que c'était en 1714, pour les fêtes de Thalie, donc il y avait un petit passage en provençal, mais c'était juste un petit essai. Puis après, il paraît qu'il y a l'opéra de Frontignan, mais dont on n'a pas retrouvé la musique, mais c'était pas à proprement parler un opéra. Mais je parle sous le contrôle de Bernadette Lespinard, ici présente, donc
oui, bien sûr, on va
elle nous aidera.
L'interpeller très vite, mais d'abord, situer cet ouvrage-là, c'est 1754, donc c'est 40 ans après l'ouvrage que vous venez de citer.
Oui.
Il y a bien des compositeurs qui proposent des ouvrages lyriques à la cour à Fontainebleau.
Tout à fait. Chaque année, la cour se déplace à Fontainebleau et on amène musiciens, danseurs, chanteurs, tout le monde les suit.
D'accord. Oui. Et qui sont les chanteurs à l'époque qui créent donc ces rôles-là, que sont Daphnis et Alcime Adur?
Bien sûr, je pense que Mondonville n'aurait pas pu se payer ce luxe d'offrir à la cour un ouvrage en occitan s'il n'avait pas eu le soutien, je dis bien le soutien, des trois grandes stars vocales de l'époque, Marifel, donc, bordelaise, Géliot, l'immense haute-contre de l'époque, Géliot, et Latour, et Pierre de Latour, donc, qui était lui aussi originaire de la région toulousaine, Géliot, qui était béarnais, lui. Et donc, ces trois chanteurs qui étaient les grandes stars incontournables à l'époque, ont soutenu Mondonville dans ce projet. Enfin, j'en suis presque sûr.
Donc, le chanteur que l'on vient d'entendre, en l'occurrence, c'était François-Nicolas Gélot. On peut lire sur le livret que c'est un haute-contre.
Oui.
Bonjour, oui. Bernadette Lespinard.
Bonjour.
C'est quoi la différence entre un haute-contre et un ténor?
Oh là là, vous allez me piéger.
pas tant que ça.
Alors, le haute-contre, c'est quelqu'un qui chante dans le registre aigu de la voix de ténor. D'ailleurs, dans les critiques là, qu'on a pu lire ici et là, il y a des gens qui disent que par moment, Gélot, justement, est dans le ténor, dans le ténor aigu. Bon, voilà, c'est...
Mais en fait,
c'est la même voix.
Mais c'est une catégorie qui ne dépasse pas le XVIIIe siècle.
Pas le XVIIIe siècle.
Il y a une tradition de ténor aigu français, quand même.
Mais oui, plus tard, avec une technique peut-être un peu différente.
Tout à fait, voilà, avec la révolution de Garcia, qui a révolutionné la technique du chant. Mais quand même, c'est une couleur vocale de ténor très aigu, typique de la musique française.
Et
surtout
française.
Pas en voix de tête. Voilà. Il ne faut surtout pas confondre avec le contre-ténor. Ça, c'est une technique anglaise. Pardon, explique ça. Mais les contre-ténors chantent en voix de tête et essayent de descendre dans le grave péniblement en voix de tête, alors que l'autre contre à la française chante avec une technique mixte appuyée vers l'aigu.
Mais François-Nicolas Gélot, j'imagine, il peut chanter des airs de ténor de l'opéra du 19e siècle. Quelle est la différence de technique vocale quand il aborde ce rôle-là?
C'est de mixer la voix, de mélanger
entre voix de
habilement la voix de poitrine et la voix de tête.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bernadette Lespinard, d'où viennent ces personnages Daphnis et Alcime Adur? Ils viennent d'une fable de La Fontaine?
Alors, ils viennent d'une fable de La Fontaine, qui est une fable tragique, qui a été publiée dans les dernières années de La Fontaine et dans son dernier recueil. Et il est rare d'ailleurs que chez La Fontaine, ça se passe aussi mal, parce que c'est une histoire d'amour malheureux, et qui, même lorsqu'on arrive aux enfers, l'un et l'autre sont morts dans des circonstances un petit peu difficiles, on n'arrive pas à se réconcilier. Alcime Adur, elle a le cœur dur, on va dire.
Et d'où son nom, peut-être.
Daphnis, qui est mort d'amour pour elle, va la dédaigner lorsqu'à son tour elle le retrouve aux enfers. Alors, c'est pas un sujet d'opéra pour le XVIIIe siècle.
Pourquoi? Parce que ça finit, parce qu'il n'y a pas de happy end.
Ça... Ah, oui. Et puis, on est quand même dans le cadre d'une pastorale. Ce sont des bergers, des gens de la campagne, et d'une manière générale, ces pièces-là étaient plutôt légères, agreste, agréable, et puis on réservait aussi, et c'est ça la caractéristique de la pastorale, puisque c'est une pastorale, on réservait aux bergers le droit d'exprimer le sentiment d'amour, avant que le droit de le dire ne passe dans la tragédie lyrique. Donc la grande tradition de la pastorale, c'est l'expression de l'amour par les bergers. à la campagne.
Ah, d'où l'intérêt pour vous, les passions, que d'avoir des chanteurs qui admettent qu'ils ont des sentiments, c'est ça?
Oui, on les y pousse même. Oui.
Et alors, vous insistez pour dire que c'est une pastorale, ça veut dire que c'est pas un opéra?
Alors, d'abord parce que Mondonville lui-même l'a intitulé pastorale langue d'Ossienne.
Oui.
Langue d'Ossienne, on y reviendra tout à l'heure. Mmh. Et que, effectivement, ce sont, enfin, au moins Daphné s'est dit, c'est un berger. Alcimadure, on ne sait pas trop ce qu'elle est. Elle aime les oiseaux, les moutons, elle est peut-être bien bergère elle aussi.
Oui.
D'ailleurs, si, elle l'est, parce que Daphné se dit à maman la polido pastourelle, hein, donc la jolie, la chère pastourelle, donc elle l'est aussi. Le troisième personnage, on ne sait pas trop ce qu'il est, il est le frère d'Alcimadure, il joue à être soldat au deuxième acte, c'est un petit peu le Deus Ex Machina, c'est celui qui
oui.
tire un peu les ficelles de l'intrigue, mais on ne sait pas grand-chose de lui.
Et alors, Jean-Marc Andrieux, vous dites, c'est quoi la différence entre une pastorale et un opéra? Pourquoi est-ce que Mondonville insiste tellement à plutôt appeler ça au pastoral?
Oui, la pastorale, il y a une importance de la danse.
D'accord.
Ça, c'est... La danse est très présente dans l'ouvrage. Il y a au moins une vingtaine de numéros consacrés à l'art chorégraphique qui est là pour souligner l'action, qui participe même, bon, c'est peut-être pas de la pantomime, mais pas loin quand même. Hein. On fait bouger les choses en dansant. Et puis, comme dit Bernadette, le cadre pastoral, agreste, qui était vraiment à la mode à ce moment-là et qui arrivera au hameau de la Reine, qui aura son apogée avec le Trianon.
Mais alors, dire pastoral languedocienne, est-ce que c'est pas un peu un pléonasme au sens où c'est quand même très attaché à cette région-là? Non, alors là, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Je ne sais pas. Là, franchement, je crois que ce n'était pas très urbain, le paysage languedocien à l'époque. Non, on était quand même beaucoup à la campagne.
Ouais.
Quand même, hein. Mais languedocienne, c'est surtout par rapport à la langue.
Mais oui,
la langue.
Voilà.
Hein,
mais donc, il y a des pastorales dans d'autres langues.
Elles sont en français la plupart du temps.
En provençal, non?
Ah non. À part l'épisode des fêtes de Thalie, de Mouret, non. Non, d'ailleurs...
Non. Il y a que le français.
Je peux faire une petite parenthèse. Oui. Lorsqu'il y avait des citations en langage méridional, on va dire, d'ailleurs on disait toujours le gascon, et le gascon il est là pour faire le comique du théâtre.
Oui.
En général on se moque de lui.
Ah, il implique un registre.
Voilà. Alors que là, il n'y a pas d'ironie du tout dans le livret que fait Mondonville. Parce qu'il faut préciser que c'est lui qui est le librettiste, au moins pour les trois actes de la pastorelle.
C'est-à-dire
c'est Mondonville qui a écrit le livre.
C'est lui qui a fait son texte.
Le texte, à partir de cette fable de La Fontaine, dont il a changé un peu l'histoire.
Écoutez, si vous lisez La Fontaine, c'est assez éloigné.
Il ne reprend que les personnages.
Oui, oui.
Alors, puisqu'on a parlé d'Alcimadure, écoutons-la chanter justement Les petits oiseaux.
Oh,
C'était Élodie Faunard qui interprète le rôle de Alcimadure avec toujours l'ensemble Les Passions que vous dirigez, Jean-Marc Andrieux. C'est une musique finalement très mimétique. On entend les petits oiseaux.
Ah oui, oui, on imite les oiseaux. Alors, dans notre imaginaire, c'est la flûte qui imite le mieux les oiseaux. Mais Mondonville était violoniste, donc il préfère confier ce rôle ornithologique à son instrument préféré, qui est le violon.
Comme le faisait déjà Vivaldi à la même époque quasiment.
Oui, oui,
enfin,
oui.
Un peu avant.
Après, les concertos qui imitent les oiseaux, c'est le Chardonneret, c'est pour la flûte. Vivaldi, mais il utilisait le violon aussi pour imiter les oiseaux, Vivaldi.
Oui.
Oui.
Dans les quatre saisons.
Notamment. Dans les quatre saisons. Ah oui, bien oui. Sûr. Ben oui, bien sûr. Oui, oui, oui.
Alors on a dit un gros mot, Bernadette Lespinard, le nom d'un compositeur italien. Il se trouve que dans les années 1750, c'est absolument pas neutre, puisque on est en 1754, deux ans après la querelle des bouffons qui a divisé.
Elle vient de se terminer. Elle...
Alors est-ce qu'elle est vraiment terminée? Est-ce que justement cet ouvrage n'est pas encore un peu une réponse à cette lutte entre musique française et musique italienne?
D'abord, les bouffons étaient repartis quelques mois plus tôt. Ils avaient quitté Paris. On peut donc dire que la querelle est terminée. Bien sûr, c'est, du moins c'est l'argument que je donne. Je pense que je l'ai un petit peu inventé, je l'ai lu nulle part, mais je ne suis pas sûre d'avoir raison, bien entendu. J'ai un peu le sentiment que Mondonville fait là sa propre réponse au tenant de l'opéra italien. Leur disant, ah oui, d'accord, moi j'écris de la musique française, mais je vais faire ça avec quelque chose qui appartient à la France, mais qui sonne comme l'italien. Et donc le recours au patois, c'est le mot de l'époque, je suis désolée pour les gens d'aujourd'hui, les patois du XVIIIe siècle, et du Sud en particulier, sonnent le plus près possible, il le dit dans la préface du livret, le plus près possible de la langue provençale, qui elle-même est issue de la langue romane. Bien, donc on est tout près de l'Italie. Et la musique qu'il va mettre dessus, elle se rapproche à la fois de l'Italie et de la France. Et en particulier, ce principe de l'imitation qu'on trouve avec ces petits oiseaux, le
très italianisant,
complètement ouais. Dans la tradition française.
Ah, au contraire.
Oui. Oui, dans la tradition française, le principe de l'imitation, il y avait un livre qui était ressorti en 1722 de Bluch qui reprenait tous les principes de l'imitation dans la musique. Voilà. J'ai répondu à la question ?
Absolument, mais il y a la question d'après, c'est-à-dire quelle est cette Languedoc ? Parce que quand on ouvre le livret du disque, il y a trois langues en fait. Donc là, je ne savais pas oui. Tout à fait comment désannoncer ce qu'on vient entendre. Soit je disais « gazouiller petits oiseaux à l'ombre du feuillage pour être compris de tous », soit oui. Je disais « gazolats aux lettres à l'ombra del fugate ».
D'accord,
est-ce que
oui.
C'est ce que chantait Élodie, non ?
Si, c'est les... il y a le texte... en occitan restitué, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, on a les occitanistes ont inventé une graphie normalisée de l'occitan.
On est quand même 150 ans après l'opéra en question.
Ah oui, oui, oui.
Oui.
Parce qu'en fait, il n'y avait pas de normalisation de l'écriture. D'ailleurs, ce n'était pas une langue qui était très écrite. Hein. Si, à l'époque des troubadours, évidemment. Mais après, il y avait une poésie occitane, mais il n'y avait pas de normalisation de la graphie. Et du coup, c'est vers la fin du XVIIIe siècle que cette graphie normalisée que vous venez de lire...
approximativement.
Voilà, je n'osais pas le dire, mais c'est difficile à lire, hein, c'est pas évident. Et après, il y a la traduction en français. Et en troisième partie, on a mis la graphie de Mondonville lui-même, en fait, qui a écrit de façon
d'accord.
Un peu une écriture un peu, comment on dit déjà,
phonétique.
Phonétique. Merci. Voilà.
Mais c'est du phonétique de l'époque et avec
la
langue qu'il avait dans l'oreille.
C'est phonétique de l'époque. Par exemple, il y a une règle en occitan. Quand vous avez un mot qui finit par la lettre A, il se prononce O. Et si vous voyez écrit porta, il faut dire porto.
Mmh.
Porto, uno porto. Et c'est un réflexe qu'il faut avoir et que les gens n'avaient pas à l'époque. Donc lui, Mondonville, pour les chanteurs, pour les aider, il écrit ce graphisme phonétique.
Et alors, vous, en 2020 et quelques, quand vous êtes avec François-Nicolas Gélot et Élodie Faunard, vous
oui.
Leur dites de prononcer comment ?
Alors, c'est pas moi, c'est Muriel Badby-Castel.
D'accord.
Parce qu'en fait, on a fait appel à une spécialiste. Moi, je connais, j'ai un peu l'occitan à l'oreille, mais je ne prétends pas... le connaître assez bien pour faire travailler au chanteur. Muriel Gabrielle, donc une amie qui est chanteuse et professeure d'occitan elle-même et qui connaît aussi tout le répertoire traditionnel. C'était la personne idéale pour faire travailler les chanteurs. Elle a enregistré tout l'opéra à parler, en parlant, et les chanteurs se sont mis déjà cette langue dans l'oreille, et ensuite elle les a surveillés mesure par mesure pour veiller à l'orthodoxie de la prononciation.
Alors qu'il y a une orthodoxie relative, parce que vous dites vous-même, il serait vain de rechercher comment le languedocien fut prononcé par les créateurs de l'œuvre.
Exactement, cette orthodoxie, elle est contemporaine, c'est-à-dire qu'il le prononce comme les occitanistes prétendent le prononcer très bien. Bon, après, il y a plusieurs écoles. Bon,
d'accord. Donc pour vous, c'est un peu comme le chant grégorien de Solesmes, Bernadette Lespina.
Le chant grégorien, oui, qui est un état idéal.
Rétrospectif, voilà. Donc.
Ou Viollet-le-Duc qui refaisait l'état gothique d'un état idéal aussi.
Donc c'est la reconstitution de quelque chose qui n'a pas existé. Ou, voilà. Enfin, oui, en l'occurrence.
Mais là, il faut ajouter quand même ce que Jean-Marc a dit tout à l'heure, c'est que les trois grands acteurs venaient de trois régions différentes.
Ah oui.
Et que, en fait, le languedocien, c'est quelque chose. Pardon, la graphie n'était pas unie, mais l'oralité non plus. Parce qu'on parlait le gascon, le languedocien, la véronais.
L'occitan, il y a six aires linguistiques de l'occitan. Voilà. Au sud, on a le gascon, c'est la zone de Bordeaux. Au milieu, c'est Toulouse-Montpellier, c'est donc le Languedoc. Et puis la Provence, au sud-est, de Marseille jusqu'à Nice. Et puis après, plus au nord, le Limousin, l'Auvergne et le Vivarais alpin, c'est-à-dire six zones linguistiques de l'Occitan avec toutes les variantes.
Avec encore ces variantes, tu as mis dans la même zone Montpellier-Toulouse, mais...
Entre Montpellier et Toulouse, évidemment, voilà, il y avait aussi...
Il y a eu les éditions de Daphnis et Alcimadour, je cite encore, en patois de Montpellier, hein, parce que dans la préface de l'édition de Montpellier, on précise bien qu'il y a des petites nuances d'une langue à l'autre, ils se comprennent certes, et que pour la meilleure compréhension, on refait une version adaptée au patois local. C'est écrit sur la couverture.
Si je vous comprends bien, les premiers auditeurs de cette pastorale en 1754 à Fontainebleau ont rien compris.
Ah, mais ils avaient un livret.
Ah,
On publiait toujours avec un opéra, opéra ou pastoral, peu importe. Oui. On publiait toujours le livret et on tirait souvent plus de 1000 exemplaires parce que on escomptait bien qu'après la première, l'œuvre serait reprise auparavant. Je peux revenir sur une seconde sur ce que vous avez dit tout à l'heure de Fontainebleau. Il y a quand même 50 opéras qui sont joués par saison en moyenne à Fontainebleau,
mais
à la cour.
Quel est le pourcentage dans ces 50 qui ne sont pas, qui sont dans d'autres français que le français de la cour?
Non, il y a Mondonville, point.
Ah, il n'y a que Mondonville comme exception. Oui, c'était la question que je me posais. Oui, d'accord. Oui. On va écouter le troisième personnage qui est chanté par Fabien Yon, qui est le personnage de Jeannet. Mais peut-être, Bernard Lespina, voulez-vous nous dire qui est ce Jeannet? Donc, c'est le frère d'Alcimadur.
Alors, c'est le frère d'Alcimadur. Et à l'acte 2, il entreprend, de s'assurer, pour rassurer sa sœur, que l'amour de Daphnis est bien sincère. Et ensuite, puisqu'il a quelques doutes sur le fait de convaincre sa sœur, il essaye de convaincre Daphnis de se consoler en allant voir ailleurs. Alors il l'envoie, il lui dit « Allez faire campagne, allez faire la guerre ». Et on a un air de vitesse, de virtuosité absolument stupéfiant. Et celui-là, il est proche du style bouffe italien.
Justement parce que c'est un air de vitesse.
Oui. Bon.
Dans cet air, on ne l'a peut-être pas reconnu, Jean-Marc Andrillon, mais il y a un hommage à Louis XV.
À la fin, rien n'est si beau ni si grand qu'une armée quand, par Louis, elle est commandée. Donc c'est l'hommage qui manquait dans le prologue, parce qu'en fait le prologue était consacré à Clément Cisor, Il n'était pas question du roi, et à l'opéra à l'époque, le prologue servait à rendre hommage au roi par tous les moyens. Hein. Et comme au début on ne parle que de Clément Cisor, il fallait...
Qui est Clément Cisor?
Clément Cisor, c'était une figure tutélaire de la ville de Toulouse, mm-hmm. des années 1300 et quelques, légendaire, on ne sait pas si elle a vraiment existé, et elle a créé les Jeux Floraux, l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse, et donc c'est un peu l'emblème de la culture toulousaine occitane.
D'accord, et donc c'est à elle que Mondonville rend hommage quand il se trouve à Fontainebleau.
Avec l'abbé de Voisenon qui a fait le livret du prologue en français. Le prologue est en français, et donc on dit que grâce à l'amour pastoral aide à mieux aimer, enfin voilà, dans des bonnes conditions, hein, c'est un peu ça l'argument. Mais là, il s'agissait de rendre hommage à Louis XV, incontournable.
Hein. Vous enregistrez cette pastorale au Théâtre Olympe de Gouges de Montauban les 30 septembre et 1er octobre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1754 et 2022? Parce qu'on a l'impression que cet opéra a complètement disparu, alors que c'est quand même une espèce d'apax à ce qu'on vient de dire.
Oui, il n'a pas complètement disparu, hein. Il a été en prêt, il a été joué pas mal, il a été repris en français parce que là le public à Paris n'aurait pas trop apprécié de continuer d'entendre cette belle langue. Mais bon. En France on voulait absolument comprendre les paroles même quand on chantait, c'est vrai hein, ça, je crois que c'était important. Donc je crois que c'est après le 19e siècle qu'il va l'oublier, qui oublie Mondonville et qui oublie les compositeurs en général du 18e. Enfin, je pense qu'au 19e on tourne une page. Hein. Et on ne la connaissait plus du tout. Quand on voit Berlioz qui a fait croire aux auditeurs que l'enfance du Christ était une œuvre du 17e, 16e siècle, c'est incroyable quand même qu'ils aient gobé ça. Enfin voilà, il oubliait. Et puis c'est Roberte Machard, une musicologue donc, qui a travaillé sur Mondonville et qui a restitué cette partition en éditant le facsimilé.
Justement à la Société de musicologie du Languedoc en 1986, année de naissance des passions.
Et voilà exactement.
Il y a quand même eu des sortes de reprises détournées de cette pastorale sous forme de parodie dans la suite du XVIIIe siècle.
Parce que c'était une tradition, les grandes œuvres entre guillemets étaient reprises dans les petits théâtres populaires, principalement parisiens, mais aussi bien en province. Et donc, pratiquement dès la première année, il y a eu un Jérôme et Fanchonnette qui était une parodie. Mais vous avez des parodies qui sont très célèbres. Pensez que Bastien de Mozart est la traduction en allemand d'un Bastien de Favart français, qui est lui-même
une parodie du Devin du Village.
Ouais. Donc vous voyez, la filiation de Rousseau à Mozart est quand même... elle a laissé des traces historiques. Comme Jean-Marc vient de le dire, tous les musiciens français ont disparu avec l'Ancien Régime. Hein, et donc, on a oublié. Mais il y a eu plusieurs traductions. Alors, il y a eu les reprises en toulousain, en montpelliérain et à Narbonne. Ça a duré une bonne vingtaine d'années. La traduction française, tu l'as dit, en 1768 à Paris, qui a eu un certain succès, voire même un succès certain, malgré les mensonges de Grimm, qui dit que c'est nul, et que parce qu'il détestait Mondonville, je ne sais pas pourquoi, qu'elle n'a pas de succès du tout.
Il détestait beaucoup de monde.
Voilà. Mais on l'a quand même joué 32 fois de suite, c'est pas rien.
En 1768?
Oui.
D'accord.
En français?
Oui. Où ça?
À Paris.
D'accord.
Donc c'est pas rien. Et encore un peu plus tard, de nouveau à Toulouse. Et puis quand même... on va dire que les musiques étaient enterrées avec leurs auteurs. Après la mort de Mondonville, il n'y a plus personne pour faire la création. Et puis, les goûts changent. Et quand une œuvre est démodée, bon, on la laisse de côté. Aujourd'hui, on vit du passé. On vit beaucoup plus de la musique du passé que de la musique d'aujourd'hui. À l'époque, c'était l'inverse.
Oui, exactement. Je voulais juste citer, c'est un peu rigolo quand même, il y a une parodie qui s'appelle « Daphnis si elle s'y m'attendre ».
Oui, c'est joli. Elle s'y m'attendre.
Et qui date de quand de... des années qui suivent, en fait.
Juste à la suite, oui.
Alors, puisque, donc, si je comprends bien, les compositeurs de l'époque aiment bien faire référence aux autres compositeurs de l'époque, et que donc Mondonville a aussi en tête ce qui s'est joué pendant la querelle des bouffons, est-ce qu'il a quand même en tête la musique du pays ?
Oui, enfin oui. D'abord, il le dit dans dans la notice préface qu'il écrit pour le livret. Et il dit, pris à cœur de citer un air du pays. Et d'ailleurs, dans la partition, ça s'appelle Air du pays.
C'est le seul.
C'est le seul dont on est sûr.
D'accord.
Il y en a quantité d'autres qui semblent sortis du recueil d'Ernoté d'Avignon. Et puis quand même, il y a des petits bouts de phrases dans les airs courts au milieu des récitatifs. Donc on a un peu l'impression que c'est des petits morceaux de chansons populaires. Mais on n'en est pas sûr, du moins moi, parce que je ne suis pas assez ferrée dans la connaissance des chansons populaires du XVIIIe siècle dans
en
le
Occitanie.
Sud. Voilà. Ça aurait été bien que Jean-Marc explique parce que
comment
il est monté, parce qu'il est joué d'abord pour l'instrument, ensuite chanté par le soliste, puis il y a des variations.
Quelle facture il a cet air ? Il est si régionalisant que ça ? Ou bien il a quand même une structure un peu savante ?
Il y a une mélancolie, oui, c'est un air vraiment de, comment dire, populaire, une mélodie qu'après, je vous préviens, après vous aurez ça dans la tête toute la journée, mais c'est très joli. Et Mondonville va le traiter avec un contre-chant qui sera donné par les bassons au début, la mélodie est jouée par les violons, et le contre-chant est fait par les bassons dans l'aigu. Écriture typiquement française là aussi. Et puis après, quand le Daphnis va chanter la mélodie, ce sera les violons qui feront le petit contre-chant.
Voilà. Et donc il chante en français « Jolie bergère, petite perle des amours, de la rose nouvelle, vous effacez les couleurs ».«
Pulido pastorello, perletto des amours ».
C'est très charmant.
Oh, que ça.
Per lì tu davanti
C'est à nouveau François-Nicolas Gélot qui, dans le rôle de Daphnis, donc, a interprété cet air Polido Pastorello, ça veut dire jolie bergère.
C'est ça,
exactement. Jolie pastourelle, le mot est un peu mis.
Pastorello, passeuse de la bergère, oui, pastourelle.
Mm-hmm. Les instruments qu'on attend, par exemple, les hautbois, ils sont à peu près d'époque.
Tout à fait, oui, vraiment d'époque. Alors, sur la partition, il y a des indications d'instruments. Mais pas toujours. En tout cas, tous ceux qui ont été cités dans la partition, ils sont sur scène. Donc il y a deux flûtes, deux hautbois, deux bassons. Normalement, il en faudrait quatre, mais bon, on ne pouvait pas non plus avoir des effectifs colossaux. Donc deux bassons. Et puis à des moments, il y a aussi deux trompettes, deux cors. Et puis on a rajouté de la percussion pour les danses.
Alors, on va y venir aux danses. Avant, juste une autre détail de comment vous avez travaillé. Vous êtes passé par le Centre de musique baroque de Versailles pour demander à Benoît de Radvitki dans quel diapason est-ce qu'il fallait jouer ce répertoire.
Oui, je lui ai demandé conseil parce que je voulais être sûr de ne pas me tromper au niveau de ce diapason qui pose problème. Hein. En fait, le diapason pour les instruments, ça n'est pas un souci, mais pour les voix, si vous chantez à un diapason trop haut, bien ça, vous allez vous égousiller inutilement.
Ça, c'est un problème qu'on avait au 19e siècle. À l'époque, ça allait encore, j'imagine.
Oui, mais après... Les gens se sont plaints que le diapason montait. Ils se plaignent toujours, les chanteurs. Plus vous allez grimper, plus la voix est tendue. Mmh. Ouais. Bon, il faut rappeler que le diapason était fixé à 435 par une convention.
En 1859.
Exactement, oui. Voilà. Et que depuis, ça continue de monter.
Oui.
En Allemagne, on est à 444 dans certains orchestres, si ce n'est pas plus.
On a consacré une émission avec Fadi Grzybanski à la question.
Bon, je l'écouterai avec un grand intérêt. En tout cas, nous, on est à 392. Là aussi.
Ah, vous êtes carrément 392.
On est pile un ton plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez écrit un « la », eh bien, vous entendez un « sol » en autre diapason 440.
Oui.
Mais en France, à cette époque, à l'Opéra à Paris, en tout cas, c'était 400. Pourquoi 392 et pas 400? Parce que c'est pile un ton plus bas. Et quand vous décalez le clavier du clavecin...
Ah oui, c'est plus facile.
Vous
oui.
tombez pile sur la fréquence d'un ton plus bas, quoi.
Et vous avez dû réorchestrer un peu alors le.
Alors j'ai fait un travail à la fois de réorchestration, c'est-à-dire les flûtes ou les hautbois, suivant les airs, suivant les caractères, double les violons. Ça n'est pas toujours marqué sur la partition. Mais le plus gros travail, c'était de compléter des parties qui ne figurent pas sur le conducteur. Mmh. C'est-à-dire sur la partition, le facsimilé édité par Robert Machard. On faisait l'économie pour économiser le papier, ça coûtait cher pour imprimer. Et donc on ne faisait figurer que les premiers violons et les basses. Donc les seconds violons et les altos n'étaient plus sur la partition, donc j'ai reconstitué toutes ces parties. Voilà, comme un moine
copiste.
Copiste, voilà, mais ça se fait.
Et donc il y a des danses, Bernadette Lispinard, c'est ce qui fait notamment que c'est une pastorale bien plus qu'un opéra.
Non, il y avait, aussi dans les danses opéras, à l'opéra. Pensez aux opéras ballets de Rameau, qui portent bien le titre d'opéra.
Oui, je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure en parlant de pastorale danse. Oui.
Oui, il y a une importance de la danse là qui est tout à fait remarquable pour une pastorale, une importance de la vie orchestrale aussi, elle-même, indépendamment de ton travail. Rien que dans ce qui est dans la partition de Mondonville, il y a quand même une vie orchestrale qui est importante. Et puis, cette danse est en action et elle est... Alors, à la différence des opéras-ballets où on a des intrigues séparées acte par acte, là, au contraire, les danses rentrent avec naturel et elles sont pour la plupart des danses qu'on pourrait dire régionales, à l'exception de la lourde qui est dans le prologue, qui est la lourde des nobles, qui est une danse qu'on va dire un peu plus aristocratique.
Mmh.
Et au contraire, là, il y a des tambourins, enfin des danses tout à fait. Et ça se termine par des danses endiablées. La danse finale de l'opéra, là, le chef, les musiciens.
Une contredanse.
On va dire, oui, c'est la contredanse. Ils sont sans donner un cœur joie.
Oui. Thank you.
Est-ce qu'on sait ce qui se passait sur scène à la création pendant cette contredanse? C'est-à-dire les acteurs se mettaient à danser devant le public ou il y avait des danseurs?
Ah non, il y avait des danseurs. Oui, il y a même le nom sur la partition, il y a le nom des danseurs.
Oui, il y a
fois,
le nom, hein. Il y a 14 danseurs.
14.
Mais parce qu'il faut dire aussi qu'en 1754, on venait... Enfin, Louis XV oui. venait de faire refaire le théâtre. On avait agrandi la scène.
Ah oui, il fallait occuper le plateau.
On avait changé la voix. On avait quand même 14 danseurs. Il faut de la place pour 14 danseurs. Les chœurs comprenaient 40 chanteurs. Vous imaginez ? C'est vraiment des gens qui venaient de Paris, qui venaient de la chambre du roi, etc. Donc des chœurs importants et il y a un personnel considérable.
Et il y a quelque chose qui, semble-t-il, ne pouvait arriver qu'à Fontainebleau, dont Mondovi n'aurait peut-être pas eu l'idée s'il avait créé Daphnis et Alcimadur directement à Toulouse, c'est qu'il y a un grand chœur.
Je ne comprends pas le sens de votre question.
J'ai l'impression que c'est parce que c'est créé à la cour qu'il y a un chœur qui est mis dans cette forme,
il
non
des, il y a des chœurs dans tous les opéras, mais même à
Oui,
même
dans
à
les
Paris.
Opéras, mais dans les pastorales.
Ah, dans les pastorales. Alors, est-ce qu'il y a des grands chœurs dans les autres pastorales
Ils sont moins développés, en tout cas.
Oui,
ils sont
oui,
moins
oui.
présents.
Non, mais, attendez, oui. il faut quand même se rappeler que Mondonville est un auteur des grands chœurs. D'abord, il travaille pour le concert spirituel.
Oui.
C'est un homme qui a...
Donc, il a l'habitude
c'est un homme
du
à facettes. Tu as dit c'est un violoniste. Il est virtuose. Il est compositeur de la chambre du roi. Ensuite, il est compositeur de la chapelle, maître de musique. Et à la chapelle royale, il écrit les fameux grands motets, les motets à grands chœurs, avec d'immenses chœurs qui sont magnifiques. Et ces chœurs qui sont enregistrés aujourd'hui sont réputés. Et donc, on retrouve étonnamment à l'opéra une importance des chœurs qui est d'ordinaire dans le grand motet.
D'accord. Mais parce que c'est un compositeur de motets, donc...
Mais parce que c'est lui,
parce
j'avais
que c'est lui, c'est ça. Oui, oui.
C'est pas parce que c'est Fontainebleau, c'est parce que c'est Mondonville.
D'accord.
Oui, 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 il a une écriture pour les chœurs qui est magnifique. Hein, qui est,
il écrit à quatre voix aussi, il faut préciser
oui,
ça.
Oui.
Les chœurs sont à quatre voix, alors qu'à la chapelle, ils sont à cinq.
Et ça, c'est italien. Hein, à quatre voix, c'est italien, oui, tandis qu'à la chapelle, à cinq voix, c'est français.
C'est français. Mmh. Donc, il est bilingue musicalement aussi.
Oui, je me demandais s'il était entre deux ou entre trois modèles. Parce que
quel serait le troisième?
Il y a l'opéra italien, l'opéra français et la pastorale.
La tragédie lyrique, elle ne laisse pas tellement de traces, là.
D'accord,
non.
Oui.
Non. Non, non, mais vraiment, c'est la réponse. C'est une réponse au tenant de l'Italie dans la querelle des bouffons.
Et une réponse sympathisante.
Une réponse à Rousseau, qui a fait jouer son devin de village Fontainebleau 2 ans plus tôt.
Oui. Hein,
et qui critique dans sa lettre sur la musique française en disant qu'il n'y a pas de musique française, que voilà, il n'en aura jamais. Donc Mondonville lui dit bah, si, il peut y avoir de la musique française qui a un goût italien.
C'est une heureuse synthèse, quoi. On peut dire que cet opéra fait une heureuse synthèse des deux styles.
Oui, c'est ça, il ménage la chèvre et le chou quand même.
Mais alors il avait quand même des modèles qui n'apparaissent pas là, mais c'était Campra, qui est un musicien provençal dont oui, Jean-Marc a dirigé beaucoup d'œuvres aussi, et qui, lui, a toute sa vie, dans son œuvre, à l'opéra, a fait la synthèse de la musique italienne. D'ailleurs, la musique italienne, elle était omniprésente quand même depuis pas mal d'années. Hein, quand même, entre Pergolèse et Vivaldi, qui étaient joués toutes les années, il ne faut quand même pas oublier que le concerto Le Printemps était joué toutes les années depuis sa création, et ça jusqu'à la fin du concert spirituel, à la veille de la Révolution. C'est quand même important. C'est un des rares qui s'est survécu.
Oui. Et Corrette a écrit un motet sur la musique du...
Laudate Dominum, à la française.
Sur la musique de Vivaldi. C'est incroyable, ça.
C'est délicieux.
Oui.
Il faudrait faire quelque chose là-dessus. Genre.
D'accord, je le note. En attendant, restons un peu dans Mondonville et sur cette présence des chœurs dans Daphnis et Alcimadur. Ça vous donne l'occasion, Jean-Marc Andrieux, de travailler avec le chœur Les Éléments, qui se trouve pas loin de chez vous.
Bien sûr, et nos amis toulousains, donc ouais. Le chœur de Joël Subiette, que je salue d'ailleurs, et que je remercie encore pour sa collaboration. Effectivement, le chœur Les Éléments participe avec bonheur à cette production, et d'autant plus, comme disait Bernadette, c'est des chœurs qui sont bien développés, qui m'ont donné aussi du travail, parce qu'en fait, là aussi, il n'y avait que la partie de soprano et de basse, donc j'ai dû réécrire les parties de haute contre, puisque c'est pas alto, hein, c'est haute contre et de ténor. Et j'ai été aidé aussi par une découverte au fond musical des Ducs d'Aiguillon, à Agen, Il y a une bibliothèque. Le duc Armand Duplessis d'Aiguillon a été disgracié. Il était ministre des Finances et puis il s'est retrouvé disgracié par Louis XV. Il est revenu sur ses terres à Aiguillon, à côté d'Agen. Et il a eu la bonne idée de ramener ses musiciens, ses partitions surtout, qui ont échappé aux destructions de la Révolution. Et du coup, on en retrouve un fond important, notamment des parties séparées du prologue qui ont été jouées à la cour du duc d'Aiguillon à côté d'Agen.
Et quand vous faites ce travail de complétion, vous faites attention à le faire dans le style de Mondonville, enfin, qu'est-ce qu'il
y a? Ah oui, alors là j'écoute, je lis, j'ai écouté, réécouté les motets, relu ses partitions pour bien me mettre dans l'oreille son style et ses harmonies. Parce que les chiffrages n'aident pas toujours. Quelquefois, il y a aussi des... par exemple, je sais pas, je me suis toujours posé la question, à quel moment on fait entendre la septième dans les cadences? Parce que vous savez, il y a plusieurs façons de faire entendre la septième, la faire passer. Bon, là, c'est un peu technique, mais...
Mais bon, c'est pas la même façon quand c'est Mondonville que quand c'est Campra?
Pas toujours, pas toujours. Non, non. Et puis, je trouve quelquefois, ça dépend un petit peu de l'ambiance.
Et ah, donc vous faites un peu au doigt mouillé quand même. Enfin...
Complètement même, oui, ouais. Oui. Ah oui, il n'y a que ça qui marche. Hein. Il faut prendre le risque.
Le texte, si je le traduis en français, c'est « Comme la lumière de la nature force à éclore mille fleurs, aussi les yeux d'Alcimadur forcent les cœurs à être amoureux ».
C'est magnifique.
Mais c'est donc le peuple qui parle là?
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça c'est tous les bergers, tout le village qui est, tout le monde est amoureux d'Alcimadur en fait, là, et l'exprime. C'est la nature qui est personnifiée, et la beauté de la nature est personnifiée par les yeux d'Alcimadur.
Est-ce que le Janet qui vient essayer d'éprouver Alcimadur ou en fait de mettre à l'épreuve Daphnis, c'est déjà présent dans la fable de Jean de La Fontaine?
Non.
Donc c'est une invention du XVIIIe siècle.
Il faut bien quand même un troisième personnage. D'abord, dans les parodies, il y a souvent trois personnages. Dans les pastorales aussi.
Il y en a un quatrième aussi, c'est le loup. Hein.
Pardon?
Il y a aussi un quatrième personnage, c'est le loup.
On n'a pas parlé du loup, c'est
quand parlons du loup.
Parce que... C'est, au fond, c'est un petit peu lui qui permet de dénouer l'intrigue. Au début du deuxième acte, il y a un très joli chœur de chasseurs avec des unissons de voix d'hommes qu'elles ne durent pas, mais ça a quand même pas mal d'allure, avec les corps, parce que ce sont des chasseurs. Et Janet, qui s'est déguisé en soldat, les encourage à aller tuer le loup qui rôde dans le... Alors ça, c'est une sorte d'introduction à la deuxième intrigue. Hein. Et... Ensuite, on parle d'Alcimadur et elle arrive en hurlant « au secours, au secours, au secours ».
Elle est poursuivie par le loup
et menacée par le loup. Qui va aller débarrasser le village et Alcimadur du loup? Forcément Daphnis, qui rêve tellement de mourir, il n'arrête pas de dire « là, je voudrais mourir ». Donc il se précipite, tue le loup. Alors, c'est vite fait d'ailleurs dans la musique, hein, je trouve que le combat il est en deux coups d'épée, en deux coups de sabre, c'est fait.
C'est très efficace. C'est très expédié.
Et donc, il revient victorieux. Et Alcimadur, au lieu de fondre de reconnaissance, elle lui rend grâce avec le cœur des paysans du village. Mais pour autant, je garde ma liberté, etc. Et le pauvre sera contraint, sur une idée de Janet, de faire semblant de mourir au troisième acte pour que, apprenant sa mort, enfin, elle fonde en larmes et, de désespoir, avoue son amour pour le jeune Daphnis. Alors là, ils sont heureux, etc.
Mais on a l'impression qu'il y a un peu tous les registres dramatiques à la fois, quand même. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans le bouffat, ni dans le seria, ou les
non,
deux.
Il y a enfin, tout, il y a ouais. tout. Tous les sentiments y passent. Tous.
Mais on...
Et sans transition, souvent. C'est très souvent de la joie à la tristesse.
Avec ouais. un accord qui fait pivot.
Et voilà.
Un petit jeu harmonique, et c'est là qu'on voit quand même que Mondonville est un bon compositeur.
Ben oui, oui, et puis il a le sens dramatique vraiment très aigu.
Ouais. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des lamentos absolument magnifiques, alors qu'on a des moments quasi comiques, ou bouffe, comme vous disiez.
Il suffit d'écouter Daphnis, il pleure tout le temps.
Oui,
hélas,
oui,
il est fait pour ça.
Je ne vais pas compter le nombre de fois qu'il chante « Hélas », mais c'est inimaginable.
Ah oui, oui, on va le compter, mais il doit y avoir une bien...
Il rêve de mourir tout le temps.
Au moins 20 fois.
20 « Hélas ».
Au moins 20 fois.
Oui. Oh oui.
Et alors avec cet appui mélodique qui est magnifique et que Gello refait... de façon splendide.
Oui, bon, on va se quitter avec un lamento, mais avant, peut-être raconter toute l'épaisseur de travail que vous avez dû abattre pour en arriver à le faire. Depuis combien de temps, enfin, on l'a dit depuis 1986, mais vous avez travaillé notamment sur les réorchestrations, le travail
oui,
d'édition.
Oui, là, le travail d'édition, de la partition, c'est 2 ans. 2 ans de travail, mais pas à temps plein. Mais
oui, enfin, oui.
À mes heures, je ne vais pas dire mes heures perdues, mais à mes heures gagnées. Donc, dès que j'avais un moment, je me mettais sur la partition, et donc... Ça m'a pris 2 ans pour voilà, reconstituer ces parties manquantes et puis éditer la partition correctement. C'est quand même pas mal de travail. Voilà.
Et vous donc, vous rêviez de Daphnis et Alcimadur parfois ou...
Oui. Oui, oui, j'en ai rêvé. J'entendais hurler le loup toutes les nuits. Mais... non, mais j'entendais cette musique, elle m'a hanté, effectivement, puis elle est tellement belle, j'avais beaucoup dans l'oreille. Oui.
Mais il me semble que tu avais fait un enregistrement il y a une vingtaine d'années.
Alors, on avait donné des extraits, on a eu l'occasion, quelques moments, de pouvoir faire des extraits, et qui m'avaient, c'était en guise de, comment dire, de mise en bouche, quoi.
Ouais.
Voilà.
À l'époque, Bernadette Lespinard, Mondonville était surtout connu pour ses Noëls, en fait.
Non.
Non,
non.
Ah, je croyais vous avoir
mais
lu
y
dire ça.
Mais il n'y a pas de Noël de Mondonville, officiellement.
Ah, ils sont devenus des Noëls.
Non, mais ils sont devenus, peut-être, mais ils étaient peut-être des airs populaires avant de devenir des Noëls de Mondonville.
D'accord.
Vous savez, les recueils de Noël, je crois qu'il y a 1 millier de Noëls qui ont été recueillis dans des gros dictionnaires au XIXe siècle.
Mais hein, qui n'étaient pas nativement des Noëls.
Et qui sont principalement des Noëls populaires qu'on jouait partout en France et ailleurs dans le monde, peut-être enfin dans le monde catholique, les messes de minuit, etc. Alors il en est resté une tradition provençale encore vivante, un peu touristique, quoi, mais enfin encore vivante. Et ces Noëls sont souvent des airs d'opéra déguisés. Donc, il y a...
Déguisé en Noël.
Déguisé en Noël.
Oui,
Noëlisé.
Mais l'air populaire pouvait aussi se vêtir de paroles plus savantes. Donc, il y a des allers-retours d'un côté vers l'autre. Alors ça a commencé dès le XVIIe siècle, des gros recueils de Noël, vrais ou faux. Le XVIIIe, quand même. Le XIXe siècle est le grand siècle de cueillette, on va dire, de recueil des Noëls.
Mais au point qu'on changeait les paroles, donc.
Pardon ?
Au point qu'on changeait les paroles, donc.
Alors, oui et non. J'ai trouvé un dictionnaire de Mini dans lequel vous avez les Noëls classés par mélodie et par parole. Et comme on écrivait les paroles sur un cadre rythmique de la parole, on pouvait passer les paroles, changer les paroles et les airs et croiser dans tous les sens. C'était extraordinaire. Il y a un seul Noël qui a résisté avec ses paroles jusqu'à changement très récent dans l'Église catholique, c'est Il est né le divin enfant, qui est publié au XVIIIe siècle, jusqu'en 1940, 45, 50, avec les mêmes paroles d'un bout à l'autre, joué au bois,
résonner
musette. Et puis, bon, les paroles ont été changées, parce qu'aujourd'hui, même à l'Église catholique, les hautbois et les musettes, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais ouais. C'est là qu'on voit bien que le Noël est une musique pastorale aussi.
Ah oui, d'origine pastorale, bah oui. En tout cas. Oui. Ah,
parce qu'une chose qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les cornemuses et les hautbois font partie de l'instrumentation normale de la pastorale.
Ah, c'est ça, c'est que l'orchestre...
Le hautbois, c'est l'instrument des bergers quand même.
C'est ça, donc l'orchestre de cette pastorale, même à Fontainebleau, est très différent des autres ouvrages. Non, pas pour autant.
Non.
Expliquez-nous.
Mais Fontainebleau, c'est anecdotique. Il se trouve qu'on a joué, Mondonville à Fontainebleau.
Mais c'est pour quand même cette formation-là qu'il a écrit la partition.
Dans ce contexte-là, oui. Mais la veille et le lendemain, on a joué un grand rameau et un grand Campra.
Oui, mais là, l'instrumentation était la même.
D'accord.
Il y avait toujours, globalement, l'orchestre, c'était deux flûtes, deux hautbois, quatre bassons. Voilà, ça c'était la base.
Et mais vous, donc, vous avez recomposé l'orchestre par rapport à la création ?
J'ai recomposé par rapport aux indications qui étaient sur la partition. Donc quand j'ai vu un moment marqué flûte au pluriel, je me dis, bon, là, il y a deux flûtes. Et puis, plus loin dans la partition, il y avait marqué hautbois, là, il y a des hautbois. Et à d'autres moments, il y avait marqué basson, puis trompette, cor, voilà, tout ça, ça m'a permis de reconstituer. Mais c'est l'orchestre typique. Après, c'est l'usage qu'on en fait des instruments. À un moment, il parle de... Quand Janet dit à Daphnis, t'as pas peur de la guerre, tout ça, fait, il essaie de l'impressionner, et lui, il lui dit, non, moi, les seules choses dont on a peur, c'est l'amour, moi, chez moi, c'est le son des hautbois qui me touche le plus. Et là, il y a un solo de hautbois. À ce moment-là. Donc l'utilisation du hautbois, elle est, anecdotique là, à ce moment-là.
Plus qu'anecdotique, il a elle une petite signification.
Elle est symbolique, c'est pas le mot anecdotique, c'est pour l'anecdote, pour souligner le côté pastoral.
Oui, parce que quand même, on ne peut pas faire une pastorale sans hautbois, si je comprends bien.
Ce serait se priver de l'instrument emblématique de quand même. Ben oui hein. Et puis la musette aussi quand même. Il y a nulle part il y a marqué de musette, mais Jean-Christophe Maillard qui en jouait parfaitement me dit, si je viendrais jouer avec toi, il y a certains morceaux que je pourrais faire à la musette. Malheureusement
il est parti avant. Merci beaucoup Jean-Marc Andrieux, merci beaucoup Bernadette Lespinard. On va
avec
donc
plaisir.
Se quitter avec une déploration de Daphnis. Hélas, qui me ramena, c'est extrait de l'acte 2.
Qui me ramène, qui me ramène, et d'insa qui.